France Culture.
Et c'est le journal de la rédaction tout de suite.
Bonjour à toutes et à tous. Un journal entièrement consacré à l'actualité au Proche-Orient, quelques heures après les premières attaques menées par Israël et les États-Unis contre l'Iran ce matin. Donald Trump appelle le peuple iranien à changer de régime. Et Téhéran riposte, vous le verrez. Il était 9h40 du matin, heure locale, en Iran, quand des tirs ont retenti et des panaches de fumée se sont élevés dans le ciel de Téhéran. Voilà les images des premiers bombardements israéliens. L'État d'Israël déclare avoir lancé une attaque préventive, c'est son expression, contre l'Iran. D'autres bombardements ont suivi ailleurs, selon l'agence de presse Fars. Elles ont également touché la grande ville d'Ispahan il y a quelques minutes. Siavosh Ghazi, correspondant de RFI à Téhéran, est parvenu à nous joindre.
À Téhéran, on entend toujours des détonations qui viennent d'assez loin. On ne sait pas ce qui est visé exactement, mais ce matin, les premières frappes ont visé à 9h du matin le quartier des institutions du pays, la présidence de la République, la résidence du guide suprême iranien. Mais là, dans ce quartier de Pasteur, il y a également le bureau du Conseil suprême de la sécurité nationale ou encore les bureaux du chef de l'autorité judiciaire. Donc c'est vraiment le centre du pouvoir iranien qui a été touché et frappé de manière très, très importante. On voit sur les images qui sont diffusées par la télévision d'État des cratères très, très, très importants. Selon les médias iraniens, le président Pezeshkian et le guide suprême, l'Aïdola Khamenei, n'ont pas été blessés, mais les autorités prévoient une guerre longue.
Quelle est la situation dans la rue à Téhéran?
Il y a un sentiment de panique qu'on perçoit. Il y a eu immédiatement, après la surprise des premiers moments, des embouteillages monstres qui se sont formés dans la capitale. Beaucoup de magasins ont fermé immédiatement, notamment dans les centres commerciaux, parce qu'on ne sait pas quelle va être l'ampleur des attaques américaines. Donc il y a une panique. Les frappes de ce matin ont été une surprise pour beaucoup de gens.
Siavosh Ghazi, correspondant de RFI et de France Culture, joint par Olivier Vogel il y a quelques minutes, alors que la connexion est quasiment impossible en Iran. En Iran, la télévision d'État parle d'une agression aérienne du régime sioniste. Et avec nous, Valérie Crova de la rédaction internationale de Radio France. Bonjour.
Bonjour à vous.
Que sait-on de l'opération militaire et de ses conséquences à ce stade qui ne se limite pas à la capitale islamique ?
Alors, ce que l'on entend sur cette vidéo, c'est un missile Tomahawk qui survole le ciel de Téhéran. Ce missile de croisière américain a été vraisemblablement tiré d'un navire de guerre déployé actuellement dans le golfe Persique. Plusieurs vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent également des missiles volés à très basse altitude dans le ciel irakien en direction de l'Iran. Concernant les cibles qui auraient été atteintes, il est difficile pour l'instant de faire un état des lieux précis. Des centres politiques, des renseignements, des sites militaires ont été visés dans plusieurs villes, Téhéran, Qom, Karaj, Ispahan, Tabriz, Kermanshah, Ilam ou Boucher. Plusieurs de ces villes accueillent des sites nucléaires qui ont été endommagés en juin 2025 après les frappes américaines, mais qui ont été renforcés depuis, comme c'est le cas à Ispahan. Le site de Parchin dans la province de Téhéran a lui aussi été bombardé. Ce complexe est employé pour mettre au point les missiles balistiques iraniens. Plusieurs bases des gardiens de la Révolution, l'armée idéologique du régime, aurait également subi d'importants dégâts.
Merci Valérie Crova de la rédaction internationale de Radio France sur ces dernières informations qui nous parviennent de l'Iran. Je rappelle que l'accès Internet s'est effondré dans le pays et dans l'Hexagone, les Iraniens de France sont donc sans nouvelles de leurs proches depuis ce matin. C'est le cas de Fariba Ashtroudi, écrivaine franco-iranienne plongée dans l'incertitude.
La population iranienne a déjà assez souffert après le massacre de janvier, après 47 ans de répression, après 47 ans où effectivement ils se sont soulevés pour essayer de frayer leur chemin pour une liberté, et la liberté s'est jamais imposée par l'extérieur et par les bombes. On le sait, étant donné qu'il y a la région de l'Irak en Afghanistan, en passant par la Libye, on a vu ce que ça a donné, les bombes et les interventions étrangères. Je suis très inquiète pour une guerre civile en Iran. Tous ceux qui réfléchissent un tout petit peu et qui voient un peu les rapports de force dans le monde et comment Israël et les États-Unis marchent sans même effectivement le droit international à faire ce qu'ils veulent, très sincèrement, on ne peut qu'être inquiète.
L'écrivaine franco-iranienne Fariba Ashtroudi, jointe par Mircea Nezic. Lui est apparu casquette blanche, floquet USA sur la tête depuis la Floride aux États-Unis. Dans un message vidéo diffusé sur la plateforme Truth Social, Donald Trump a esquissé les objectifs de cette opération après la campagne de frappe menée conjointement avec Israël depuis ce matin. Mais le président américain a surtout exhorté les Iraniens à prendre le pouvoir dans leur pays. Écoutez son discours.
Il y a peu de temps, les forces militaires américaines ont lancé des opérations de combat majeures en Iran. L'objectif, c'est de défendre les Américains en détruisant les capacités de missiles du régime iranien, un groupe vicieux de gens absolument terribles, dont les actes menacent directement les États-Unis et nos alliés outre-Atlantique. Au grand et fier peuple d'Iran, je dis ce soir que l'heure de votre liberté est venue. Restez à l'abri, ne quittez pas votre domicile. C'est très dangereux à l'extérieur. Des bombes tomberont partout. Quand nous aurons terminé, prenez le contrôle de votre gouvernement. Il sera à vous. Ce sera probablement votre seule chance pour des générations.
L'avenir prospère et glorieux est à votre portée, dit Donald Trump aux Iraniens. Franck Madon, vous êtes correspondant de France Culture à Washington. Concrètement, que veut Donald Trump en Iran ?
Avec ce discours, l'objectif des États-Unis et d'Israël est clairement affiché. Ces deux pays veulent un changement de régime, au moins une destruction du régime. Il n'est plus question de mettre la pression sur l'Iran pour négocier. Dans sa déclaration, Donald Trump expose les raisons pour lesquelles il a donné son feu vert à cette attaque. L'Iran est un sponsor du terrorisme au Moyen-Orient. Il détaille le soutien apporté par Téhéran à des proxys, des groupes terroristes dans la région, comme le Hezbollah ou le Hamas. Et puis, insiste Trump, l'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire. Or, Téhéran a relancé son programme nucléaire après les frappes de juin dernier, selon Donald Trump, et les négociations n'ont pas porté leurs fruits. Il faut donc attaquer. Voilà le raisonnement du président américain qui promet de détruire les missiles de l'Iran, de réduire à néant la marine. Il dit aux gardiens de la révolution, aux soldats iraniens, déposez les armes ou vous courez une mort certaine. Il met en garde contre le fait qu'il pourrait y avoir des victimes américaines, mais qu'il est temps d'agir. Et à la fin de sa déclaration, Donald Trump s'adresse au peuple iranien qui a manifesté il y a quelques semaines contre le régime, une contestation réprimée dans le sang. « Quand nous aurons terminé, dit-il, emparez-vous du pouvoir, ce sera à vous de le faire ». Donc l'objectif affiché de cette campagne, c'est bien le changement de régime. Et le pari de Donald Trump aux côtés d'Israël, c'est que la population iranienne profite des frappes pour faire tomber la République islamique et prendre le pouvoir.
L'analyse de Franck Madvon, correspondant de France Culture à Washington. De son côté, l'armée israélienne affirme que des dizaines de cibles appartenant au régime iranien ont été visées. Alice Froussard, vous êtes en direct de Jérusalem, bonjour.
Bonjour.
Le dôme de fer israélien est lui aussi activé pour intercepter les missiles.
Oui, et les sirènes retentissent depuis ce matin en Israël. C'est d'ailleurs comme ça que tout le pays s'est réveillé. Et puis ça s'est intensifié, surtout les dernières heures, même les dernières minutes. Les explosions se font entendre, elles sont surtout liées aux interceptions de missiles. Pour le moment, on sait juste qu'un immeuble de 9 étages a été touché dans le nord d'Israël et qu'un homme d'une cinquantaine d'années a été légèrement blessé. Mais ce qui est nouveau cette fois, par rapport à la précédente confrontation en juin dernier entre Israël et l'Iran, ce sont les discours que l'on a entendus des États-Unis, d'Israël, de Donald Trump, de Benjamin Netanyahou, qui laissent surtout entendre que ce n'est que le début. Tous les deux promettent un changement de régime et la riposte de l'Iran ne s'est pas fait attendre. Alors, c'est comme ça que tout est allé très vite ce matin. Les Israéliens se sont rendus dans les abris dès qu'il y a des alertes, soit chez eux, soit dans les abris publics, en sous-sol, parfois même dans le métro, comme on l'a vu à Tel Aviv. L'état d'urgence en Israël a été décrété. Plus d'écoles, elles ont été fermées. Le gouvernement a également interdit les rassemblements publics, demandé aux Israéliens de travailler à domicile et de ne pas se rendre dans les aéroports.
Alice, malgré la surprise, c'était quelque chose qui a été attendu.
Oui, ou du moins, cela faisait des semaines qu'il y avait une préparation à ce scénario. Hier, le personnel non urgent de l'ambassade américaine en Israël a été autorisé à partir du pays au motif de risque pour leur sécurité. Les États-Unis avaient aussi déployé une importante force aéronavale dans toute la région, notamment le plus grand porte-avions du monde arrivé à Haïfa. Et puis, les hôpitaux israéliens, eux aussi, avaient déjà prévu le coup. Ils soignent les éventuels blessés dans leur sous-sol où des lits ont déjà été installés en prévision d'une attaque.
Merci Alice Roussard, correspondante de France Culture en direct de Jérusalem. Les pays du Moyen-Orient sont en alerte. Le Qatar condamne une attaque de missiles menée par l'Iran contre son territoire. De son côté, le Liban n'acceptera pas d'être entraîné dans le conflit avec l'Iran contre lequel les États-Unis et Israël ont lancé ces frappes. En Jordanie, l'armée de l'air a annoncé mener des exercices. La tension montée depuis des semaines au Moyen-Orient, on vous le disait, accumulation de forces américaine dans la région ou encore rhétorique de plus en plus offensive. Bonjour Clément Terme.
Bonjour.
Vous êtes historien des relations internationales chargé d'enseignement à l'université Paul-Valéry de Montpellier et à Sciences Po Paris. Washington et Tel Aviv ont donc mis leurs menaces à exécution.
Oui, tout à fait. C'était annoncé depuis plusieurs semaines, en fait, plusieurs mois, depuis la fin de la guerre des 12 jours. C'était une pause tactique dans la confrontation entre d'un côté Israël soutenu par les États-Unis et de l'autre la République islamique d'Iran. C'est un conflit qui date de 47 ans, donc le président Trump a bien indiqué l'antériorité du conflit et je pense qu'il souhaite, avec le Premier ministre israélien, son dernier mandat, le président Trump, et il veut obtenir la chute du régime iranien qui menace les intérêts occidentaux au Moyen-Orient depuis 1979.
Le rapport de force, il est clair.
Oui, sur le plan militaire, il y a une supériorité effectivement conventionnelle et technologique du côté israélo-américain, mais l'acceptabilité des pertes n'est pas la même. C'est-à-dire que pour les États-Unis, s'il y a des pertes de soldats américains, cela sera très difficile sur le plan intérieur pour l'opinion publique américaine, alors que du côté de la République islamique d'Iran, on a vu le massacre du mois de janvier, des dizaines de milliers de morts tués par le régime, c'est beaucoup plus que la guerre israélienne du mois de juin 2025 qui a été.
C'est ça, quelle est la capacité de l'Iran de répondre aux attaques des États-Unis et d'Israël aujourd'hui?
Alors il y a un stock de missiles courte portée notamment qui n'a pas été utilisé pendant la guerre des 12 jours au mois de juin 2025. Et ces missiles sont en train de cibler le Koweït, les Émirats Arabes Unis, le Qatar. Donc le risque pour la République islamique, c'est qu'au fur et à mesure qu'elle utilise ses capacités militaires, elle perd son outil de dissuasion parce que un outil de dissuasion, c'est-à-dire sa capacité de missile à frapper, c'est fait pour ne pas s'en servir. Et là, ils sont en train de se servir de leur capacité de dissuasion. Donc, il y a un stock, a priori, de plusieurs centaines de missiles. Mais une fois que celui-ci sera épuisé, il sera plus difficile par ce moyen-là pour la République islamique de déstabiliser la région. Donc, on peut s'attendre aussi peut-être à des attaques terroristes comme la République islamique l'a pratiquée dans les années 80.
Donc cette opération militaire, elle se distingue clairement d'autres épisodes de tension. Vous faisiez référence à la guerre des 12 jours l'année dernière. On n'en est plus là.
Oui, parce qu'à l'époque, la frappe militaire était coordonnée. C'est-à-dire que les États-Unis avaient parlé avec la République islamique pour que le conflit soit limité, en accord aussi avec les pays de la région. Cette fois-ci, la République islamique a annoncé que la guerre serait régionale et c'est pourquoi le président Trump avait reporté une première frappe le 15 janvier à la suite des massacres perpétrés par la République islamique. Mais c'est vraiment une idée reçue de penser que le maintien au pouvoir de la République islamique n'engendrait pas de la violence. Le niveau de violence était extrêmement élevé, plus élevé même que pendant les phases de confrontation militaire que l'on a connues en 2024 et au mois de juin 2025.
Est-ce qu'il faut craindre un risque d'embrasement dans la région?
Alors, les ambitions idéologiques de la République islamique font craindre cet embrasement, mais il y a un décalage entre les capacités réelles militaires du pays et les ambitions idéologiques du régime. Donc, certes, la volonté de mobiliser aussi les milices en Irak, les Houthis au Yémen, donc de régionaliser le conflit sera présente parmi les forces idéologiques des gardiens de la Révolution. Mais il ne faut pas oublier que c'est un régime qui est aussi délégitimé sur la scène intérieure et qui n'a pas le soutien de sa propre population. Donc, il n'y a jamais eu de ralliement derrière le drapeau de la République islamique. C'est pourquoi on parle en Iran de révolution du lion et du soleil. Donc il y a aussi deux fronts. Il y a aussi le front interne qui existe et qui est mobilisé par le président Trump et les forces armées israéliennes également.
Merci Clément Terne, historien des relations internationales. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Un mot du temps des affaires, des averses cet après-midi de la Bretagne Hauts-de-France, de l'Alsace à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Les maximales sont en baisse après quelques jours de doux. On attend 9 à 14 degrés en général, jusqu'à 14 à 18 degrés. Ce journal a été préparé avec l'AGDAR Olivier Benmalek. Nicolas Leroulet était à la technique. Tout de suite, c'est l'heure de s'en préjuger avec Nathan Devers.